Bonjour à tous les amis du Centre Sèvres. Nous sommes dans la Semaine Sainte, ce moment où nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Et nous le vivons dans un contexte tout à fait particulier, celui de cette épidémie de coronavirus. Il nous a semblé important de permettre de réfléchir à nouveau sur ce mystère. Et pour cela, nous avons sollicité Michel Fédou, qui enseigne ici au Centre Sèvres, qui est professeur de théologie, qui a enseigné la Christologie, la Trinité, qui connaît très bien les Pères de l'Église. Bonjour Michel Fédou.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous avons des questions à vous poser donc sur la Pâque du Christ, la mort et la résurrection du Christ. Peut-être la première question qui vient, ça serait tout simplement de se demander que disent les historiens à propos de la mort de Jésus? Est-ce que c'est un événement attesté? Est-ce qu'on connaît à peu près sa date? Voilà.
Eh bien oui, c'est un événement qui est tout à fait attesté bien sûr avant tout par les évangiles, mais nous avons aussi d'autres témoignages, y compris dans la littérature profane. Je pense par exemple à un passage de l'historien latin Suétone, ou encore je pense à l'historien juif Flavius Joseph qui parle aussi de la crucifixion de Jésus. C'est un événement historique, vraiment attesté, et on est parvenu à le dater avec une très grande probabilité. On pense que cet événement a eu lieu exactement le 7 avril de l'année 30.
Michel Fédou, la mort et la résurrection de Jésus est vraiment centrale pour les chrétiens. C'est au cœur de leur foi. En même temps, la Pâque du Christ, elle a quelque chose de violent, puisque c'est la mise à mort de quelqu'un. Parfois, on entend dire ça fait partie du plan de Dieu. Comment comprendre ça? Comment la mort violente de quelqu'un peut faire partie du plan de Dieu? Est-ce que vous seriez d'accord aussi avec cette expression?
Alors, je pense qu'il faut d'abord dire un mot sur les causes historiques de la mort de Jésus. D'après les évangiles, il y a des responsabilités diverses, responsabilités historiques, non pas de tout le peuple juif, contrairement à ce qu'on a souvent dit, mais des responsables et des autorités juives à l'époque. Et il y a aussi une responsabilité des païens, entre guillemets, qui sont symbolisés en quelque sorte par la figure de Pilate. Donc il y a des responsabilités historiques qui ont certainement joué. En même temps, d'ailleurs, les évangiles laissent entendre que par-delà ces responsabilités historiques précises, il y a en quelque sorte une complicité de tous les hommes, finalement, toute l'humanité qui s'est en quelque sorte liguée contre Jésus. C'est ce que traduit à sa manière l'écriteau, le roi des Juifs, qui se trouve exprimé à la fois, formulé à la fois en grec, en latin et en hébreu. Alors, c'est la première chose qu'il faut dire. Donc, il y a des responsabilités historiques qui ont joué. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que la passion, la mort de Jésus correspond au plan de Dieu, que c'est le plan de Dieu? Alors là, il faut dire clairement, Dieu ne veut pas la mort de Jésus. Dieu ne veut pas la mort de Jésus. Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas la souffrance. Mais il se trouve que Jésus a vécu dans un monde qui, mystérieusement, était marqué et demeure marqué par des forces de mal et de mort. Et dans ce contexte-là, Jésus, pour demeurer jusqu'au bout fidèle à sa mission, pour être jusqu'au bout témoin de l'amour de Dieu, Jésus a dû consentir à passer par là.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que la mort de Jésus aurait pu être évitée? Et est-ce que Dieu n'aurait pas pu intervenir pour empêcher cette chose horrible?
Les théologiens du Moyen-Âge soulignaient volontiers que tout était possible à Dieu et que Dieu aurait pu, de fait, aurait eu la puissance, le pouvoir d'intervenir à tout moment, en toutes circonstances. Mais il s'agit d'un raisonnement, d'une certaine manière, abstrait. En fait, le problème, c'est que si Dieu était intervenu pour empêcher juste à temps la passion et la mort de Jésus, eh bien, c'est une autre image de Dieu qui nous aurait été transmise. L'image d'un Dieu dont la toute-puissance est à même de maîtriser tous les événements de l'histoire. Or, ce n'est pas l'image de Dieu à laquelle les évangiles nous renvoient. Les évangiles nous donnent plutôt l'image d'un Dieu vulnérable, d'un Dieu qui ne triche pas avec la condition humaine, Dieu, en Jésus, assume jusqu'au bout la condition humaine. Si Dieu était intervenu au dernier moment, ou juste avant le dernier moment, pour empêcher la mort de Jésus, d'une certaine manière, c'est cette révélation de l'image de Dieu, l'image biblique de Dieu, qui aurait été compromise.
Alors sur la croix, dans les récits de la Passion, notamment chez Marc et Matthieu, on entend ce cri de Jésus, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, disons, ça peut faire beaucoup réfléchir les chrétiens en se demandant, mais est-ce que Jésus est passé par là? Est-ce qu'on peut dire qu'il a été abandonné par Dieu? Et comment comprendre cela finalement?
Alors, première chose, il faut prendre très au sérieux ce cri qui est en fait la reprise du début du psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne faut pas, en quelque sorte, édulcorer la portée de ce cri sur la croix. Jésus, réellement, à travers cette reprise du verset du psaume, manifeste qu'il a éprouvé à ce moment-là une détresse, une déréliction radicale. Il s'est senti, il s'est perçu abandonné de Dieu son Père. Mais faut-il dire pour autant qu'il a été effectivement abandonné par Dieu? Eh bien, je dirais non. Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce n'est pas pour autant que Dieu, le Père, abandonne son Fils. Dieu laisse son Fils aller jusqu'au bout, mais Dieu n'abandonne pas son Fils. Prenons une comparaison, un père dans notre expérience humaine, un père ou une mère qui a le malheur, la douleur terrible de perdre son enfant. Eh bien, bien sûr, son enfant avance avant de mourir, va crier sans doute son désespoir ou sa détresse, mais pour autant, ni le père ni la mère n'abandonnent cet enfant. Ils lui sont plus que jamais présents. Simplement, ils n'interviennent pas, ils ne peuvent pas intervenir, ils sont impuissants face à cet événement. Eh bien, je dirais, de façon analogue, c'est un peu quelque chose de ce genre qu'il faut comprendre à propos de Dieu, de le Père. Jésus fait l'expérience d'être abandonné par Dieu, mais il continue à crier. Et le fait même qu'il continue de s'adresser à son Père, fût-ce en lui disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» montre qu'il demeure en relation avec son Père.
Et dans le credo, on confesse, on dit, il est descendu aux enfers. Comment on peut comprendre cela?
Alors, c'est une expression qui figure effectivement dans le symbole des apôtres et qui trouve divers fondements dans le Nouveau Testament, en particulier dans deux passages de la première épître de Pierre. Je dirais d'abord qu'il faut éviter en contresens, il est descendu aux enfers ne signifie évidemment pas « il est descendu en enfer ». L'expression « les enfers », dans la formule « il est descendu aux enfers », traduit ce que la Bible hébraïque appelle le « Sheol » ou ce que les Grecs appelaient l'Hadès, au fond, le monde des morts, le domaine des morts, là où les morts sont enfermés et captifs. Or, ce que nous dit cette formule « il est descendu aux enfers », c'est que Jésus, qui est mort sur la croix, est allé jusqu'à rejoindre l'humanité dans cet extrême de la condition humaine, qui est précisément l'état de la mort, l'état du corps mort. Mais cette formule, il est descendu aux enfers, a un autre sens extrêmement profond. C'est une manière de dire que Jésus n'est pas simplement mort pour ses contemporains, mais qu'il est mort aussi pour tous ceux, toutes celles qui depuis longtemps étaient enfermés dans le sommeil de la mort. Et donc à travers cette formule « il est descendu aux enfers », nous avons comme une expression de l'universalité de l'offre du salut.
On peut avoir en mémoire cette très belle icône de la résurrection dans la tradition orthodoxe où on voit Jésus qui a cassé les portes
exactement
des enfers, et qui prend par la main Adam et Ève pour les ramener à la vie.
Exactement. Ouais. Oui.
Alors, dans, disons, la question de la mort et de ce qui suit la mort est présente dans beaucoup de religions, pas seulement dans la tradition chrétienne. Quelle serait la différence entre la résurrection de Jésus et ce que disent d'autres religions au sujet, notamment, on peut penser à la réincarnation, ou voilà. Ça serait quoi le spécifique de la résurrection de Jésus par rapport à ce thème de la réincarnation, par exemple.
Bien, l'événement de la résurrection de Jésus pourrait se traduire par une formule toute simple, que l'on trouve d'ailleurs dans le Testament, il est vivant. Il était mort, or il est vivant. Or, que veut dire cette formule? Elle veut dire deux choses, au fond. Elle veut dire d'abord, c'est lui qui est vivant. C'est lui qui est vivant, c'est-à-dire celui que l'on avait connu sur les routes de Galilée ou à Jérusalem, le voici de nouveau vivant par-delà la mort. Et ce que signifie aussi cette formule « il est vivant », c'est qu'il est vivant à jamais, pour toujours. Et c'est là que l'on peut percevoir et comprendre la différence par rapport à la croyance à la réincarnation. La croyance à l'incarnation signifie que, après avoir mené une certaine existence, après être mort, on se trouve réintroduit, réincarné dans une autre existence, qui d'ailleurs, selon l'hindouisme, n'est pas forcément une existence humaine, qui peut être une existence plus proche du divin, ou au contraire plus proche du monde animal. Mais en quelque sorte, on revient dans une nouvelle existence qui, à son tour, sera marquée par l'échéance de la mort. Tandis qu'avec la résurrection de Jésus, nous sommes en présence d'une vie, la naissance à une vie qui est à jamais.
Il y a une sorte de libération par rapport à la mort, on peut
oui,
dire.
Oui, une libération radicale définitive par rapport à la mort. Et de ce point de vue-là, la résurrection représente une nouveauté sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors, c'est évidemment quelque chose qui était attendu, espéré dans les siècles précédant la venue du Christ. Il y avait cette espérance sur laquelle les justes, à la fin des temps, revivrait à jamais par-delà la mort. Mais justement, la nouveauté absolue et magnifique de l'événement de Pâques, c'est que ce qui était attendu et espéré par des Juifs, déjà dans les siècles précédant la venue de Jésus, se trouve, selon la foi chrétienne, déjà accompli en la personne de Jésus.
Merci Michel. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est quand Jésus est ressuscité, dans les récits évangéliques, on voit qu'il apparaît seulement à quelques disciples.
Oui.
Pourquoi on aurait pu imaginer une apparition beaucoup plus large à des témoins, notamment, qui n'avaient pas cru en lui, par exemple, et qui auraient du coup été vraiment convaincus qu'il était vraiment le Fils de Dieu?
C'est vrai que, d'après les évangiles, il est apparu essentiellement à des hommes, des femmes, d'abord des femmes, semble-t-il, puis des hommes, qui l'avait connu durant son ministère public. C'est vrai. Il y a tout de même une exception majeure avec Saul sur le chemin de Damas, puisque Saul avait été un adversaire des chrétiens, il persécutait les chrétiens. Or voici que, alors ce n'est pas vraiment une apparition de la même manière que l'apparition à Marie-Madeleine, par exemple, ou l'apparition aux apôtres, mais Jésus, sur le chemin de Damas, est saisi par l'évidence du ressuscité. Voilà, je suis celui que tu persécutes. Voilà. Mais c'est vrai que, même s'il y a de fait des exceptions comme celle-là, le témoignage dominant, global, des Écritures, c'est que Jésus s'est manifesté, qu'il s'est apparu essentiellement à ceux et celles qu'il avait déjà connus, qu'il avait suivis. Alors, il faut réfléchir sur ce fait qui signifie au fond d'abord que le sens, l'un des sens fondamentaux de ces apparitions du Christ ressuscité, c'est de manifester l'identité entre le ressuscité et celui que Pierre, Jean, Jacques et beaucoup d'autres ont pu connaître avant les jours de sa résurrection, avant l'événement pascal. C'est ça l'un des sens fondamentaux de ces apparitions. Manifester qu'il s'agit du même. Et d'autre part, j'ajouterais, cet événement de la résurrection, c'est un événement qui ne s'impose pas à tous. Jésus n'apparaît pas à ceux qui se sont révoltés, rebellés contre lui, même si, encore une fois, il y a cette exception majeure de Saul sur le chemin de Damas. Jésus n'impose pas sa présence. Le ressuscité ne s'impose pas. L'événement de la résurrection lui-même implique, présuppose la foi. Et on voit bien ça dans les récits d'apparition. Ce n'est pas du premier coup, dans un certain nombre de cas, ce n'est pas du premier coup que les saintes femmes ou les disciples reconnaissent en Jésus le ressusciter.
D'ailleurs, dans plusieurs récits, ça demande du temps avant de le reconnaître.
Oui, ouais. Il y a tout un itinéraire. On voit ça, par exemple, pour l'apparition à Marie-Madeleine au chapitre 20 de l'Évangile de Jean. C'est pas du premier coup qu'elle reconnaît le ressuscité. Elle le reconnaît seulement au moment où elle s'entend appeler par son nom, Marie.
On peut dire, et c'est sans doute encore plus présent aujourd'hui dans le cadre de cette crise du Covid-19 et de cette épidémie, que le mal et la souffrance continuent jusqu'à nos jours, et parfois on peut dire plus que jamais. Qu'est-ce qui serait unique dans le cas de la mort du Christ par rapport au drame de l'histoire ultérieure?
Oui, je crois que c'est très, très important vraiment de souligner que l'expérience ou l'épreuve du mal, de la souffrance, tragédie, au fond, continue, et nous le savons bien sûr, et particulièrement dans la période que nous traversons. La mort et la résurrection de Jésus n'ont pas empêché cela, n'empêchent pas cela. Alors, qu'est-ce qui néanmoins est unique dans la mort et la résurrection de Jésus? Ben, je dirais tout simplement, c'est que c'est pas simplement la mort et la résurrection d'un homme parmi d'autres, mais que c'est la mort et la résurrection d'un homme que nous confessons comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même est allé jusque-là, jusqu'à connaître la mort et à renaître ensuite à jamais par-delà la mort. Il y a là quelque chose d'unique et qui est en même temps porteur d'une espérance qui nous rejoint jusque dans les drames, les tragédies de notre histoire. Si le Fils de Dieu lui-même est passé par la mort, mais s'il est rené à une vie nouvelle par-delà la mort, alors il y a là un message d'espérance pour notre humanité, alors même qu'elle reste confrontée au drame et à la tragédie de la souffrance et de la mort.
Mais est-ce que ça ne mériterait pas un petit peu d'explication aussi? Parce qu'on pourrait dire, en quoi la mort et la résurrection de quelqu'un d'autre peuvent nous concerner et nous rejoindre? Et, disons, dans la foi chrétienne, on dit qu'il y va de notre salut. C'est la mort et la résurrection du Christ qui permet notre salut. Voilà. Alors, comment comprendre cela?
Alors, je dirais clairement, en rigueur de terme, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la mort elle-même qui cause notre salut. Ce qui cause notre salut, c'est la manière dont Jésus nous a aimés et a manifesté l'amour de Dieu jusque dans l'épreuve de la souffrance et de la mort. C'est cela qui nous sauve. La manière dont Jésus, dans cette épreuve terrible qui a été la sienne, a manifesté qu'il ne répondait pas à la violence par la violence, mais il a en quelque sorte transformé de l'intérieur le sens de la souffrance et de la mort qui lui était imposée pour en faire l'expression d'un don absolu, par amour pour nous et pour la multitude. C'est cela qui nous sauve.
Et du coup, Michel Feydeau, on pourrait se demander, est-ce que ça change quelque chose pour le monde? Parce que dans le monde, il y a aussi des grands déchaînements de violence, etc. On a l'impression des fois qu'on s'en sort pas, disons. Est-ce que la mort et la résurrection du Christ autorisent une espérance pour l'histoire?
Moi, je dirais, la mort et la résurrection du Christ ne font nullement échapper les chrétiens à la souffrance qui est celle de l'humanité dans les drames qu'elle traverse à notre époque comme à d'autres époques. Par contre, cette mort et cette résurrection du Christ sèment une espérance invincible. Bien sûr, nous ne voyons pas encore la manifestation de cette vie éternelle promise à toute l'humanité. Mais nous sommes porteurs d'une espérance qui nous est transmise par l'événement de la résurrection du Christ. Il ne faut pas oublier que dans l'anamnèse, qui tient une place très importante dans la célébration eucharistique, nous ne disons pas simplement « Christ est mort, Christ est ressuscité », nous disons aussi « Christ reviendra ». Et alors même que nous demeurons confrontés au mal, à la souffrance et à la mort, nous sommes, grâce à l'événement de Pâques, nous sommes habités par cette espérance invincible que la mort n'aura pas les derniers mots. Et nous sommes dans l'attente du jour où, précisément, la mort aura été définitivement vaincue, non pas simplement pour le Christ, ni pour tous ceux, toutes celles qui sont déjà vivants auprès du Christ, par-delà la mort, mais aussi pour notre humanité elle-même.
Merci Michel. On pourrait se demander, est-ce qu'on n'a pas, dès aujourd'hui, des signes de cette victoire ? Est-ce que cette victoire ne porte pas déjà du fruit pour aujourd'hui ? Et ne fait pas déjà entendre quelque chose et ne transforme pas déjà des choses aujourd'hui ?
Oui, certainement. Puisque, en fait, ce qui nous sauve dans le mystère pascal, c'est la manière dont Jésus se révèle comme celui qui aime jusqu'au bout, malgré l'épreuve dont il est l'objet. Eh bien, nous comprenons que dans notre monde et dans notre actualité même, partout où des hommes et des femmes vivent profondément de cette relation de confiance, d'espérance et d'amour, dans la mesure où ils s'efforcent autant qu'ils peuvent, grâce à l'Esprit de Dieu bien sûr, d'être des justes, jusque dans l'épreuve de la déréliction, et bien dans cette mesure, ils sont une lumière pour nous tous. Ils nous montrent le chemin. Et ils font déjà, et nous faisons avec eux, une certaine expérience de la résurrection. Dans l'Épître aux Colossiens, il y a un verset tout à fait étonnant. L'auteur de l'Épître dit « Vous êtes ressuscité ». Il ne dit pas « Vous serez ressuscité », il dit « Vous êtes ressuscité ». Ça veut dire que dès maintenant, dans notre présent, il est possible de participer déjà, jusqu'à certain point, de cette expérience d'une vie plus forte que la mort, promesse de cette vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés.
Un très très grand merci, Michel Fédoux, pour tous ces éclairages très, très, très précieux, je trouve, et très clairs sur le mystère pascal. Et à tous nos auditeurs, de très bonnes fêtes de Pâques.